Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la misophonie qui est très mal connue. Même il y a énormément de misophones qui s'ignorent. Hein. C'est une intolérance au bruit du corps des autres. C'est-à-dire que les personnes qui sont misophones émettent des bruits organiques, hein, les rôles, tous les bruits, la mastication, la déglutition, le reniflement, etc. Il y en a toute une liste. Donc, ces personnes tolèrent tout à fait leur bruit et même elles augmentent l'intensité de ces bruits quand elles sont face à des personnes qui en émettent. Mais par contre, elles ne supportent pas les bruits des autres. Et c'est vraiment, pour certaines, une invalidité parce que ça les gêne pour travailler, ça les gêne pour aller manger en famille, manger au restaurant. Voilà. Alors, moi, pendant des années, parce que j'exerce en tant qu'ORL et psychothérapeute depuis 1995, en fait, j'ai traité énormément de misophones sans le savoir. Moi, je mettais ça dans le cadre de l'hyperacousie, c'est une intolérance au bruit familier, au bruit quotidien. Et puis, c'est en 2000 que monsieur et madame Jastroboff ont nommé la misophonie spécifiquement lié au bruit organique. J'explique un petit peu, justement, je vais dans mon livre, c'est un petit peu l'histoire des facteurs et des chiens. Comment ça démarre? Les personnes achètent un petit chien, le petit chien, il voit arriver une personne qui, tous les jours, met une lettre dans la boîte aux lettres. Ce petit chien, comme il défend son territoire, il va se mettre à aboyer et il va voir qu'en aboyant, la personne s'éloigne. Donc, il se dit « chouette, je lui ai fait peur ». Mais comme tous les jours, ce facteur revient, à un moment donné, le chien va sauter et puis après, bah, il va arriver jusqu'à mordre parce que malgré tout ce qu'il fait, le facteur revient toujours. Et pour la misophonie, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que l'enfant qui commence, enfin la misophonie, elle débute vers beaucoup de personnes, 18, 10, 12 ans, après adolescence, on va dire. Et elles vont commencer à râler, à crier, etc. Mais tous les jours, les personnes de la famille continuent à faire du bruit. Donc, il y a quand même un sentiment d'impuissance. Il y a beaucoup de colère aussi. Et donc, comme il y a beaucoup de colère, les personnes vont se sentir coupables parce qu'elles vont dire, mais en fait, c'est les personnes de la famille, mais je les aime. Je les aime, mais elles sont insupportables. Donc, c'est toujours les autres qui doivent changer. Et moi, ça me fait un petit peu penser aux enfants précoces, là, les philo-cognitifs, des personnes qui ont aussi une hypersensibilité sensorielle au bruit, aux stimulations visuelles, etc. Et il y a beaucoup de philo-cognitifs qui sont aussi misophones ou hyperacousiques. Hein. L'hyperacousie, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas supporter les bruits de vaisselle, les bruits dans la maison, et le moindre petit bruit va les déranger. Et puis, comme j'utilisais le MDR à l'époque, jusqu'à ce que je sois formée à Tipeee, puis après à MRS, je me suis rendu compte que des personnes, pendant les séances de MDR, qui en fait n'avaient pas de mots, elles n'étaient que dans le non-verbal, les sensations. Et du coup, j'ai interrogé ces personnes pour leur demander comment elles étaient nées, etc. Et il y avait pas mal de prématurité, et notamment des personnes qui sont allées en couveuse avec le personnel qui mettait des objets sur les couveuses. Et donc, tous les bruits qui rappellent ces instants précoces sont source, effectivement, d'intolérance. Ensuite, il y a d'autres personnes au cours des séances de MDR qui m'ont dit, enfin des misophones, qu'elles étaient gênées, enfin elles ont retrouvé des scènes où elles dormaient dans la chambre de leurs parents et en fait, toutes petites, elles ont été gênées par les bruits au moment des rapports sexuels. qui était pour elle terrifiant. Après, il y en a d'autres qui m'ont parlé aussi, surtout les filles, du moment où elles ont eu leurs règles et où on leur a dit bah, « t'es une grande, maintenant t'es une femme », sauf que la famille continuait à les considérer comme des petits-enfants, en les prenant sur les genoux, en les prenant par la taille, en leur faisant des bisous dans le cou. Et du coup, ces personnes ne supportaient plus le toucher et les bruits. Alors moi, je me dis, est-ce que les personnes misophones ne supportent pas les bruits organiques ou aussi elles ne supportent pas les personnes du fait de ce manque de limites, ce manque de respect, d'où la colère. Parce que la colère, elle naît de l'envahissement du territoire et du dépassement des limites de ce qu'on peut ou ne peut pas supporter. Voilà, donc ça, c'est des indications. Et alors, les ORL, quand je leur ai parlé de la misophonie, m'ont dit « Oh, mais c'est la psychiatrie, c'est pas nous qui devons nous occuper de misophonie. » Sauf que là encore, en recevant des patients qui avaient des maladies de Ménière, des acouphènes, d'autres troubles ORL au cours des séances de MDR, ont dévoilé leur misophonie et qu'on a retraité après séparément. Donc, il y a pour ça, dans mon bouquin, je marque la misophonie isolée, les personnes qui consultent pour la misophonie de façon spécifique, et des personnes qui sont où la misophonie est associée à d'autres pathologies. Mais souvent, le fait de cette intolérance, c'est quand même pas évident de dire « je ne supporte pas mon père qui pète », par exemple. Et les gens ne vont pas en parler parce qu'ils vont dire « mais c'est honteux de dire ça ». Voilà. Sauf que c'est très fréquent. Et moi, je me demande même au moment de toutes ces périodes de confinement, puisqu'il n'y a pratiquement que des misophones, des hyperacousiques et des personnes qui avaient des acouphènes qui m'ont consulté, et je me demande si ce n'est pas une source de violence intrafamiliale et conjugale. Parfois, même sans le savoir, les gens n'ont pas trop conscience, mais ne supportent pas telle personne parce qu'en fait, elle fait beaucoup de bruit. Voilà. Alors, et je dis aussi, par exemple, on dit que la misophonie, c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Donc, c'est bien précisé que c'est un symptôme. Un symptôme, c'est-à-dire aussi un symbole. Et qu'est-ce que ce symptôme veut dire? Donc, on essaye de décortiquer ça. Ou on traite simplement, justement, avec MRS, les conséquences émotionnelles. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, donc les émotions, elles sont en lien avec de la honte, de la colère, de la culpabilité, parce qu'une mère me disait « mais quand même, je ne peux pas en vouloir à mon bébé, le pauvre, lui, il fait rien », ou à mon grand-père malade qui a intubé et qui farfote, enfin voilà. Et du coup, de la tristesse aussi en lien avec l'isolement, puis il y a beaucoup de personnes qui ne mangent plus du tout, même des enfants, qui ne vont plus manger à table avec leurs parents. Et il y a des mères qui viennent les servir dans leur chambre puisqu'ils ne tolèrent plus le bruit des autres et que c'est chaque fois une source de conflit. Alors, pour les misophones, c'est vrai que ce sont les autres qui doivent changer. Et parfois, ils leur demandent de changer, mais de façon maladroite. Donc, parce qu'en fait, elles ne savent pas faire. Et c'est comme ça que moi, après, je vais conseiller aux personnes aussi des techniques d'affirmation de soi pour apprendre à être de façon, se comporter de façon socialement acceptable. Et donc, comme dans les phobies, les misophones vont user de stratagèmes hein, pour éviter d'être confrontés à tous ces bruits déplaisants. Il y a une multitude de moyens, mais ces moyens, ils vont être chaque fois dépassés. Donc, ils vont essayer, ça marche un temps et ça ne marche plus. Ça marche un temps, ça ne marche plus. Ils vont essayer autre chose. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte en consultant un site sur la misophonie où chacun donne des conseils. Les gens essayent, puis ils reviennent, mais ça a marché, ça ne marche plus, etc. Alors que ni le MDR, ni MRS, ni les techniques d'affirmation de soi ne sont cités sur ces, dans ces forums. C'est-à-dire que personne ne les propose, en fait. Alors, et puis les gens se plaignent aussi des professionnels qui ne sont pas informés, qui ne connaissent pas la maladie, enfin la maladie, ce symptôme. Et très vite, donc ils vont voir des psychologues, puisque les médecins n'y connaissent rien, ils vont voir des psychologues, mais comme les psychologues ne connaissent pas mieux, ils se disent en fait, ils ne peuvent pas me comprendre, ils ne savent pas ce que c'est. D'où l'intérêt d'écrire ce bouquin et de vous en parler, pour que si quelqu'un vient vous consulter, vous, vous sachiez au moins, vous avez déjà une idée, et vous pouvez dire « je connais ». Et qu'à ce moment-là, les personnes, elles seront plus facilement en confiance et vous pourrez dire « j'ai quelque chose à vous proposer hein ». Donc, déjà, alors je mets dans le traitement, il y a pas mal d'explications à donner. Donc, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme qui veut dire quelque chose. Alors, soit on cherche d'où il vient, ce que ça veut dire, soit sinon, avec la régulation ou la résolution émotionnelle, on traite les émotions. Les émotions parties, les personnes vont mieux penser par elles-mêmes et vont elles-mêmes trouver les bonnes solutions et arranger ces conflits en expliquant ou en s'affirmant et ça ira nettement mieux. Alors, c'est aussi, je parle des accords Toltec parce que je dis aux personnes, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Hein, et de ne pas faire de suppositions, parce qu'elles disent que les autres font exprès de faire du bruit, alors qu'en fait, c'est des bruits que tout le monde émet et que ce n'est pas intentionnel. Hein. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, je leur donne des notions sur la physiologie des perceptions. C'est-à-dire qu'il y a des stimuli, elles ont vécu quelque chose et ces stimuli, ils viennent renforcer ce qu'ils ont vécu justement à une période souvent très précoce. Alors eux, ils vont se souvenir des premiers moments, peut-être aussi parce qu'on leur a dit vers l'âge de 8, 10, 12 ans, mais ces stimuli viennent renforcer des situations anxiogènes ou de colère qu'ils ont ressenties quand ils étaient bébés. Et que les émotions, donc ça part des organes des sens et ça va suivre toutes sortes de voies, et notamment au niveau central, avec les centres des émotions, de la vigilance et de l'attention et de la mémoire. C'est-à-dire plus elles vont faire attention, plus il y aura des émotions, plus ça va s'ancrer dans la mémoire, mais la conscience, elle, elle est au niveau cortical. Donc, pour amorcer le traitement, je donne cette explication pour dire que c'est important de faire la cohérence cardiaque. Donc ça, je leur montre comment faire et je leur donne le site cohérence cardiaque sur YouTube et je demande aux personnes de faire… la cohérence, 3 minutes, 3 fois par jour pendant au moins 3 semaines, parce que je les revois toutes les 3 semaines. Alors, c'est vrai, celles qui l'ont fait 2, 3 fois en 3 semaines vont me dire « ça ne m'a rien apporté », mais celles qui l'ont fait vraiment, parce qu'on s'est rendu compte que c'est comme ça qu'elle était efficace, 3 minutes, 3 fois par jour, 3 semaines, et ces personnes-là vont me dire effectivement qu'elles sont très nettement améliorées. Donc ça, c'est à faire elle-même. Hein. J'ai dit, c'est vous, vous êtes autonome, c'est à vous de pratiquer. Si vous le faites, ça marchera mieux que si vous ne le faites pas. Et puis, je leur fais une séance d'EMRES tout de suite, dès la première consultation, où je leur demande, c'est EMRES en différé, de rappeler une scène représentative de leurs difficultés. Donc, première séance, c'est ça, toutes ces explications, les indications de faire de la cohérence cardiaque, pour calmer leur cortex cérébral. Il y a aussi d'éviter tous les stimulants comme le café, thé, alcool qui excitent aussi, les drogues psychoactives, et puis tout ce qui est stimulation visuelle par les… Enfin, il ne faut pas que ça soit exagéré, hein, les ordinateurs, les films, les reportages, les publicités, où les images, elles ont des séquences de 2 à 3 secondes, hein, je crois. Et puis de temps en temps, il y a une petite pause, et puis après, ça reprend très très vite. Et ça excite aussi le cortex cérébral. Alors, j'ai fait un schéma, je vais vous le montrer, j'espère que je vais le retrouver. Et je leur dis, c'est des petits moments d'air. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est tout ça, c'est la respiration, la relaxation, la résolution émotionnelle. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais t'as pas parlé du rire, parce que le rire aussi, ça détend. Voilà. Donc, c'est dans la journée, fractionner et avoir ces petits moments de détente et de résolution émotionnelle. Après, donc aimerait, et alors, première consultation, ben je leur montre comment faire MRS pour elles-mêmes en instantané. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à sentir, et Cédric nous avait montré la journée, raconté la journée au présent. Donc, ben je leur fais aussi raconter leur journée au présent pendant 10 minutes pour qu'elles se rendent compte qu'effectivement, elles ressentent des émotions à tout moment dans la journée, mais qu'elles ont tendance à minimiser. Donc, c'est dire que chaque émotion ressentie désagréable doit être traitée pour améliorer. Voilà. Ensuite, ben, quand les personnes… alors, ça peut être aussi d'apprendre à faire MRS pour les autres en instantané, parce que ben dans la famille, justement, quand il y a des conflits, parfois, c'est bien aussi de le faire pour les autres et d'apprendre aux personnes de la famille à le faire pour elles-mêmes. Et aussi de prévenir tout le monde, je trouve que c'est bien, pour dire, ben voilà, si jamais, pendant le repas, je ferme les yeux. Ne me demandez pas ce que je suis en train de faire. Je fais ma résolution émotionnelle pour que ça se passe bien pour moi. Et je dis aux personnes, prévenez bien aussi votre entourage de ne pas vous demander de nouvelles au sujet de votre misophonie. Que ça ne soit pas le sujet de discussion parce que ça renforce la mémoire. Et après, on ne sait plus trop la gêne si elle est dans le souvenir ou si elle est dans l'instant. Donc, quand c'est dans le souvenir, on sait que pour MRS, bah, du coup, ça ne permet pas de traiter. Donc, les personnes sachent bien où elles en sont, si elles ressentent dans la réalité ou si elles ressentent dans leur souvenir, enfin, si elles se souviennent de ce qu'elles ressentent à un moment donné. Voilà. Alors, après, bah, pour celles pour qui c'est important, je peux leur faire faire des jeux de rôle sur les techniques d'affirmation de soi, pour apprendre à demander, pour apprendre à faire des compliments quand les personnes tiennent compte de ce qu'elles ont demandé, pour apprendre à faire des critiques avec demande de changement, c'est-à-dire quand elles ont déjà demandé et si les personnes persistent, à ce moment-là, de faire la critique. Voilà. Et apprendre aussi à recevoir des critiques. Et je me suis rendu compte qu'en pratiquant MRS, les personnes qui le font elles-mêmes régulièrement, progresse très rapidement au moment de la formation en affirmation de soi. C'est qu'avant, il fallait une vingtaine de séances et que là maintenant, souvent, en 4-5 séances, c'est réglé. Parce que pendant les techniques d'affirmation de soi, on fait des jeux de rôle et on les répète pour que les émotions diminuent et qu'à partir du moment où les personnes n'ont plus d'émotions, en fait, elles se souviennent très bien de la technique et elles la mettent en pratique très facilement. Et je me suis rendu compte aussi, alors pour des personnes pour lesquelles les cas sont quand même graves, parce qu'il y en a qui ont carrément des idées de meurtre, hein, ça peut être elles sont très, très agressives. Mais aussi parce qu'elles ont été violentées et qu'elles ont besoin donc plutôt de MDR. Et là aussi, je me suis rendu compte qu'en demandant aux personnes de faire MRS, les séances de MDR durent deux fois moins de temps et les personnes ont besoin d'un nombre limité de séances. Voilà ce que j'avais à dire. Mais en général, enfin, pour moi, les quatre séances en moyenne suffisent. Je dis en moyenne parce que selon la gravité, mais quand je fais le total des séances et par rapport aux patients, la durée, elle est quand même beaucoup moindre. Les personnes qui sont motivées, qui pratiquent pour elles-mêmes, elles vont progresser très, très, très rapidement. Voilà, donc vous avez des questions?
Alors, merci beaucoup Anne-Marie. Je vais peut-être repréciser, parce que ça n'a peut-être pas été clairement dit quand tout le monde était là, c'est qu'en fait, tu as écrit un livre qui devait sortir en janvier, mais qui va sortir qu'en juin, tu vas nous en parler. Mais
Voilà.
l'idée de parler de ce sujet-là aussi, c'est que, comme toi, tu veux lever le pied un peu, c'est que pas mal de praticiens risquent d'être contactés pour la misophonie. Et
Voilà.
donc, voilà,
Oui,
je te laisse en
je
parler.
vais consulter de moins en moins, mais comme j'ai déjà écrit deux articles sur mes blogs, j'ai quand même beaucoup de personnes qui me contactent et ben, je leur donne le site, l'adresse du site Apaise. Et si certaines personnes sont intéressées par la prise en charge des troubles ORL ou de la misophonie, ben, qu'elles me le disent, on donnera mon adresse email et comme ça je pourrais mettre leur nom et leurs adresses sur mes blogs.
Ouais. Donc il y avait ça, et puis vous serez en plus prévenu effectivement à la sortie de ton livre,
Et puis
on
sinon il y
verra.
aura le livre, oui, en mai juin. Donc le titre n'est pas complètement défini, mais de toute façon ça sera la misophonie, les bruits, l'intolérance au bruit des autres. Voilà, ça va être globalement, ce sera ça.
Ouais, on vous le redira de toute façon.
Voilà, oui.
Voilà, je voulais juste repréciser ça parce que je ne sais pas
Oui, comme les
si
personnes
c'était
sont arrivées
clair.
en cours de route.
Oui, voilà. Donc voilà, si vous, maintenant, on peut laisser le temps aux questions-réponses.
Alors, je ne sais pas si. Non, il n'y a pas eu de.
Il n'y a pas eu de chat, non. J'ai mis dans le chat l'adresse de tes deux blogs et là, je suis en train de mettre ton adresse mail. Voilà.
C'est ça, pour les personnes qui sont concernées. Oui, parce que ce que je disais au tout début, c'était à Sophie et Olivier, c'est qu'à peu près, on a comptabilisé entre 10 à 15 % de personnes misophones en France. Donc, en fait, ça fait plusieurs millions, en moyenne 7 millions de personnes. Donc, si les gens sont intéressés et lisent le livre et disent, ben, tiens, j'aimerais bien. Suivre une thérapie, il va falloir fournir des adresses et que des personnes aient suffisamment de connaissances pour dire, voilà, pour dire, bah oui, je connais la misophonie. Parce que il y a des médecins ou des psychologues qui disent, ah ben non, mais je ne sais même pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc les patients qui viennent, ils disent, bon, ils ne savent pas ce que c'est, donc ils viennent une fois et ils ne reviennent pas après. Donc si les gens disent, ben oui, parce que de toute manière, le MRS, c'est fait pour traiter les émotions. Donc, c'est pas des symptômes, des sensations. Et quel que soit le lieu du corps ou le type de pathologie, MRS interviendra sur les émotions. Donc, toutes les personnes formées à MRS sont capables de prendre en charge ces personnes. Mais l'histoire, c'est qu'elles sachent un petit peu pour. Se montrer intéressé et poser les bonnes questions aussi.
Alors, est-ce qu'il y a... Oui.
J'aurais une question, Anne-Marie.
Oui.
Pour les situations de départ que tu utilises, j'imagine que ça part de bruits divers et variés, de bouche, de bruits corporels, mais est-ce que tu vas aussi, tu pars de la colère ou de colère autre que les
Alors,
bruits divers et variés?
oui, alors normalement, c'est n'importe quelle situation et n'importe quelle émotion. Et c'est vrai que pour l'hyperacousie ou la misophonie, les personnes ramènent beaucoup de situations où elles sont gênées par les bruits environnants. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à se souvenir, toi qui parles en général et qui n'arrivent pas à se souvenir. Et il y en a qui me disent, ah ben ce matin, en venant vous voir, j'étais dans les embouteillages et j'ai une colère. Voilà, donc on part de là. Mais c'est quand même mieux de cibler les situations où elles ont eu des conflits en lien avec, avec ces bruits, parce que ça va plus vite.
D'accord. Et est-ce que toi, ça t'arrive par exemple de faire un bruit si la personne n'a pas de situation?
Non, j'ai jamais, jamais, il y a toujours eu des situations.
D'accord.
Ouais.
Oui, si la personne consulte, c'est que ça va pas.
Voilà. Oui. Après, c'est vrai qu'en posant les questions, elles se souviennent de différentes situations. Mais je leur dis des situations récentes. Donc, ça peut être qui datent de moins d'un mois. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, c'était cet été, justement, quand j'ai vu mes grands-parents. Ben, je dis, bon, on part de cet été. Il n'y a pas de problème. Par contre, je ne vais pas partir de l'enfance. Parce que autant avec le MDR, on part du plus ancien, avec MRS, on ne part quand même pas du plus ancien, puisque ça remontera le long des racines. Et c'est là où les personnes, à la fin, qui vont dire, ah mais oui, mais je me souviens, quand j'étais tout petit, il y avait ça et ça qui me gênait. Mais ça peut venir d'une situation de la veille ou ouais, très. Très récente.
J'aurais une question. Bonsoir Anne-Marie, c'est Dominique.
Oui.
Voilà, en t'écoutant parler, là, je me disais, mais quelle différence entre une simple gêne au bruit et organique et puis franchement une intolérance au bruit quand ça devient insupportable. Et à partir de quand on peut dire ou tu peux dire que c'est un symptôme installé, avéré?
C'est les personnes qui n'ont pas de souffrance ne consultent pas. En fait, ce qu'on traite, c'est la souffrance. Moi, je n'ai pas de jugement par rapport à l'intensité. Il y a des personnes qui vont. C'est comme les acouphènes, c'est pareil. C'est des tout petits bruits. Il y a des personnes qui vont se suicider pour des tout petits bruits. Et puis, il y en a d'autres. Alors, je parle de l'acouphène parce que c'est vrai que c'est parlant. J'ai une femme qui m'avait consultée parce qu'elle était allée à un concert. Ça faisait à peu près 9 mois qu'elle avait cet acouphène qui ne passait pas malgré tous les traitements. Et donc, c'était les circonstances, c'est-à-dire que son mari a insisté pour qu'elle aille à ce concert alors qu'elle n'aimait pas ce type de musique. Elle l'a accompagnée, et comme elle n'avait pas envie, elle était un petit peu lente pour se préparer. Ils sont arrivés en retard. Il restait que 2 places juste à côté de grosses enceintes sonores. Et puis, avant même que le concert démarre, le mari voit des collègues de travail à l'autre bout de l'amphi. Il va les voir, le concert commence et elle se retrouve coincée toute seule à un concert où elle n'avait pas envie d'aller et à côté d'enceinte. Donc, à cause du bruit, elle a eu des acouphènes. Mais ce qui a entretenu les acouphènes, c'est sa colère envers son mari, envers elle-même aussi, puisque elle aurait mieux fait de pas y aller. Alors que des personnes qui ont suivi le même concert, qui ont eu des acouphènes après, en quelques jours, les acouphènes ont disparu. Donc c'est ça qui va faire la gêne, c'est ce qui persiste, et souvent ce n'est pas le symptôme, mais c'est plutôt parce que des bruits de bouche, on va dire, c'est quand même pas très gênant, ou comme dans certaines cultures, les personnes vont émettre des rots à la fin du repas. Et puis tout le monde accepte ça. Pourquoi des personnes ne l'acceptent pas? Et c'est justement parce qu'il y a un passé lié à des émotions. Donc c'est ça qui fait que c'est pathologique, entre guillemets. C'est cette intolérance.
Oui,
Alors que.
tout à fait, c'est un point que j'apprends là ce soir, que je découvre et qui va me permettre aussi d'orienter par rapport à des personnes qui viennent me voir, parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs cas où des gens étaient venus au niveau des acouphènes et je porte un autre regard maintenant. Merci.
Oui, et oui. Mais c'est vrai pour tous les symptômes, hein. C'est pas. Alors moi, J'étais otorhino, donc j'ai reçu beaucoup de personnes qui avaient des obstructions nasales, qui avaient des vertiges, qui avaient même des personnes qui ont des douleurs à la pointe de la langue. On dit des glossodynies, des douleurs de la langue, mais on retrouve après, c'est tel qu'ils disent. Moi, je ne fais jamais d'interprétation sauvage, mais j'ai appris beaucoup des patients et des personnes qui disent, mais en fait, je n'osais pas le dire. Et je dis, mais oui, mais quand on n'ose pas le dire, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais oui, je l'avais au bout de la langue. Donc voilà, donc c'est toujours et c'est toujours toujours en lien avec des émotions. Hein. Bon, après, je dis toujours, c'est quand même mon orientation. C'est vrai qu'il y a quand même de la biochimie, qu'il y a des problèmes alimentaires, il y a des problèmes d'ondes, il y a des problèmes de toxiques, tout ça. Mais globalement, même si on prend un toxique et il y a des personnes qui vont se détoxiquer très vite, et il y en a d'autres, ça ne va pas marcher parce que ben, il y a des émotions. C'est les circonstances dans lesquelles c'est apparu. C'est
Oui.
ça. Misophonie, moi j'ai vu une femme, mais ça avait été touchant parce que c'était une séance de. Elle était venue pour des vertiges de ménière. Elle a, à la troisième consultation, je lui ai fait une séance de MDR pour ses vertiges de ménière, et là, elle me parle de son père qui l'avait prise, elle venait d'avoir ses règles, il l'a prise par la taille et il lui a fait un rod dans l'oreille. Et après, ben, on a retraité ça après, plus tard, et je lui ai fait montrer comment faire MRS. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est vrai que ce père, je le préférais à ma mère parce qu'on partageait beaucoup de choses, mais à partir de ce jour-là, je ne l'ai plus supporté. Et un jour à table, il pleurait en disant à ma mère que je ne l'aimais pas, etc. Mais pourtant, je l'aimais, mais je ne pouvais pas lui dire parce qu'il me dégoûtait à cause de ses bruits. Et puis, j'ai dit, bah, vous pouvez toujours lui dire que vous l'aimez. Elle me dit, mais non, mais je peux plus, il est mort. Je dis, mais ce n'est pas parce qu'une personne est morte qu'on ne peut pas lui dire qu'on l'aime. Et à la fin de la séance, elle est partie en me disant, bon, ben, je vais au cimetière et je vais dire à mon père que je l'aime. Je crois que c'était trop mignon. Voilà. Donc, elle a résolu son problème. Et cette femme. Donc, c'était la troisième séance. Elle a dû venir 4 fois. Et c'est à partir, ça m'a marqué parce que c'était à partir du 1er janvier 2017 où j'ai dit, toutes les personnes qui entrent dans mon cabinet auront une séance de résolution émotionnelle. Et donc, comme je les reçois toutes les 3 semaines, c'est à partir du mois de février à peu près. En une semaine, il y a 12 personnes qui ont annulé leur rendez-vous. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourquoi ils annulent? J'avais jamais vécu ça. Et je me suis dit, ben, je vais quand même leur téléphoner parce que comme la résolution, c'est là, je l'oblige, enfin, je m'oblige à le faire à chaque personne. Je vais voir si je fais des bêtises ou pas. Donc, je les ai toutes appelées. Et ben, les 12 m'ont dit, ah, mais non, mais si on a annulé, c'est parce qu'on allait bien. Donc c'est génial.
Ouais. Merci Anne-Marie.
Voilà.
C'est Emeline qui parle. Je suis ravie de vous rencontrer parce que j'ai eu deux expériences par rapport à la misophonie. J'ai
Oui.
découvert ça à un monsieur que j'avais formé un grand groupe de personnes à l'autonomie émotionnelle. Et ce monsieur vient me voir et il ne mangeait plus avec sa fille et sa femme depuis 10 ans parce qu'il ne supportait pas les bruits de bouche. Et il vient me voir et il me dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Il m'apporte un petit gâteau sec. Il me dit, croquez, croquez, croquez. Il rapproche son oreille et il me dit, mais c'est vrai que ça ne fait plus rien. Il n'y croyait pas lui-même.
Ouais,
Et
eh oui.
donc, voilà. Et lui, il l'a fait en autonomie après le premier temps de la formation d'autonomie émotionnelle. Et ensuite, j'ai eu une autre expérience, malheureusement, qui m'a laissée un peu dépitée. Une femme qui m'a contactée de l'association des misophones. Il y a 1 500 personnes dans cette association de misophones
Oui.
qui souffrent de misophonie. On a fait du différé, j'ai appris l'autonomie, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas pensé à cet aspect de l'affirmation de soi et je serais intéressée pour que vous puissiez expliquer comment voilà, tricoter entre émotion, affirmation de soi, voilà. Ça m'intéresse.
Alors, c'est vrai que avant, à une époque, je faisais des groupes d'affirmation de soi, et maintenant, en fait, j'agis plus en fonction de ce qui se passe dans l'instant. Souvent, mais même au cours d'une séance de MDR, hein, je peux dire on arrête, on ferme, je vous montre comment faire, on reprend la séance. Ben, c'est vrai que la fin de la séance, elle va très vite parce que les personnes, elles ont compris, elles ont trouvé la solution. Voilà. Donc, alors, il y a le livre de, je l'avais noté justement, je voulais vous le dire, de Frédéric Fanget et qui s'appelle « Oser la confiance en soi ». Alors, il y a un autre de Baudry et Boisvert, c'est des Canadiens, c'est pareil, sur l'affirmation de soi. Alors, il faut dire que Baudry et Boisvert ont formé Frédéric Fanget qui m'a formé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas écrit sur l'affirmation de soi, parce que ces deux livres sont vraiment très bien. Ils expliquent beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il faut le vivre pour pouvoir se désensibiliser. Et c'est, alors, bon, après, peut-être qu'un jour, je ferai une séance comme ça sur l'affirmation de soi. Un webinaire.
Comment vous tricotez avec, par exemple, vous faites une régulation émotionnelle et comment vous faites quand vous repérez qu'il y a une problématique, je dirais, d'affirmation de soi, vous proposez à ce moment-là quelque chose de concret ?
Oui, oui, ben oui, je montre comment. Et souvent, c'est le fameux desk, c'est faire une critique avec demande de changement. Donc, d'accord. C'est par exemple une personne qui ne supporte pas le bruit, plutôt de dire ouais, j'en ai marre, etc. Ça ne fait pas changer. Il faut savoir que quand on veut faire une critique, se mettre en colère, ça ne sert à rien, mais dire sa colère, c'est autre chose. Et que parfois, on ne peut pas dire à une personne « je suis en colère », si c'est un patron ou tout ça. Donc, le DESC, c'est description de la situation. C'est expression des émotions. C'est-à-dire, quand tu fais du bruit ou quand tu manges en gardant la bouche ouverte, expression des émotions, ça me contrarie, ça me gêne. On ne va pas dire ça me dégoûte, ça me gêne. Parce que l'affirmation de soi, c'est toujours dans le respect de l'autre. Le S, c'est proposer une solution positive. Ce que j'aimerais, c'est que tu penses à fermer la bouche quand tu manges. Le C, c'est la conséquence positive de la solution positive. Et comme ça, j'aurai du plaisir à manger avec toi, à tes côtés, à partager ce repas avec toi. Donc moi, je donne un modèle. La personne, elle va le répéter une fois, deux fois. Et puis, à un moment donné, quand les émotions seront parties, c'est elle qui va trouver son vocabulaire.
Et excusez-moi, mais là, ça fait un peu penser que c'est l'autre qui me met en difficulté. Or, le misophone, c'est lui-même qui a cette difficulté par rapport au bruit extérieur. Donc,
mais le misophone, il a cette difficulté, mais il peut quand même demander, que c'est vrai aussi qu'il y a des personnes dans l'environnement qui font des bruits qui sont difficilement supportables, qui ne sont pas correctes socialement et qui s'en moquent. Quand un père, il se gratte le pubis là, à côté de sa fille, bon, je ne trouve pas que ça soit… voilà, et la fille, eh ben, elle est gênée par ces bruits de grattement. C'est pas… Donc, elle est bien en droit de demander à ce que le père il fasse attention. Mais une fille ou un enfant, il ne va pas oser dire ça. Hein? Donc, ben, moi, j'apprends comment faire. Et que les personnes qui viennent, mais même il y a des enfants aussi, qui j'apprends
à oser exprimer,
à oser dire les choses. Alors l'histoire du desk, à partir du moment où on le fait bien, c'est très fluide et la personne en face, elle ne se rend pas compte qu'on lui fait une critique. Mm-hmm. Je vois par exemple comme exemple, c'est ma fille, elle est à la fac. Et il y avait une fête à la faculté et il y a des élèves qui ont dit pendant un cours, et il y a des élèves qui ont dit au prof, vous ne pourriez pas changer votre cours parce que nous, on veut aller à la fête. Et le prof qui a dit, non, mais pas question. Si vous voulez venir à mon cours, vous venez, ou si vous allez à votre fête, vous allez à votre fête. Mais après, si jamais vous perdez des informations, c'est tant pis pour vous. Et ma fille me dit, mais comment je pourrais faire? Parce que moi, j'ai vraiment envie d'aller à ce cours parce qu'il est important et c'est possible qu'on soit interrogé un examen là-dessus. Mais j'aimerais bien aussi aller à la fête. Donc, je lui ai montré comment faire le desk, on s'est entraîné. Et avec une copine, elles sont allées voir le prof en disant, voilà, madame, vous avez un cours très intéressant, on aimerait bien assister à ce cours, mais ça nous ennuie parce qu'il y a une fête en même temps. Donc, ce qui nous ferait plaisir, solution positive, c'est que vous puissiez le décaler et conséquences positives, et comme ça, on vous assure qu'on viendra à votre cours après. Et elle a dit, ah, mais pas de problème, hein. Et la prof, elle a déplacé son cours. Donc voilà, parce que c'était respectueux. Et j'ai même des patients qui me disent, mais c'est marrant parce que mon patron, je lui ai fait cette critique et puis il m'a dit, oh, ben, c'est bien avec vous parce que vous apportez des solutions. C'est-à-dire que les personnes ne se rendent pas compte que c'est une critique dans la mesure où on propose une solution et qu'on montre la conséquence positive de la solution positive. Donc, c'est intéressant, hein. Au début, quand j'ai commencé en 95, en fait, pour toutes les pathologies, je ne faisais que des séances d'affirmation de soi. Et les gens me disaient, mais si seulement on avait su ça plus tôt. Et les symptômes disparaissaient, parce que les conflits interpersonnels disparaissaient. La plupart du temps, les problèmes, ils naissent des conflits interpersonnels.
Merci.
Voilà, j'ai répondu, c'est bon?
Oui, oui, bah moi je suis formée à la gestion des conflits par la communication non violente, etc. Ça me parle bien, mais j'ai honnêtement, par rapport à cette jeune femme, là, je n'ai pas pensé à ce créneau-là, parce qu'elle, par exemple, elle était dans l'autobus, il y avait un monsieur qui reniflait. Elle ne pouvait pas lui faire le desk là. Elle lui demandait, voilà. Donc, mais c'était l'enfer pour elle, c'était l'enfer. Donc
oui.
J'achèterai votre livre.
Voilà, quand il sortira. J'en écris un sur les
acouphènes.
J'explique quand même aussi, j'explique tout ça.
Il y a aussi « Savoir s'affirmer » de Charlie Kenji.
De qui?
De Charlie Kenji.
Oui, oui, ben c'est ça. Oui, oui, avec Kenji, ils sont tous dans la lignée, en fait, hein.
Il était cessé.
Frédéric Franget, il conseillait le livre de Baudry-Boisvert et de Kenji, parce que je pense que Kenji a été formé aussi par Baudry et Boisvert. Mmh. C'est génial, hein, les techniques d'affirmation de soi, vraiment, ça change la vie. Mais associé à la résolution émotionnelle, c'est encore mieux. Ça va nettement plus vite.
Bonjour Anne-Marie, est-ce que vous m'entendez?
Ouais.
Tu as évoqué la question au potentiel en fait au début où souvent il y a une hypersensibilité et il peut y avoir justement, enfin moi je n'avais jamais mis ce terme hein, de misophone, mais est-ce qu'on même pour eux on met ce terme-là ou est-ce que c'est plus de l'hypersensibilité et qu'il ne faut pas tout de suite mettre un grand mot de misophonie, je ne sais pas. Mais j'ai souvent trouvé ce que tu décris dans l'accompagnement des hauts potentiels.
Voilà, ils ont une hypersensibilité, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, on va parler d'hypersensibilité, mais qu'à partir du moment où la personne va se plaindre et que ça crée des conflits, à ce moment-là, on va parler de la misophonie, comme de l'hyperacousie aussi. Ou mince, je ne sais plus le terme. Parce que dans la misophonie, il y a aussi misokinésie, enfin, les personnes qui bougent les mains, qui bougent les jambes, tous les mouvements comme ça qui tapotent aussi, les misophones, ils ne supportent pas. Donc, il y a un terme, je ne me souviens plus, il ne me revient pas là, mais les misophones ont aussi cette intolérance et les hauts potentiels, c'est pareil, ils ne supportent pas tout ce qui se répète. Alors, je vais vous dire une chose. C'est pas enregistré là, Sophie. Sophie, c'est pas
Excuse-moi,
enregistré.
Oui, je te parle. Si, si.
C'est enregistré là.
Oui.
Je peux pas dire alors. Comment?
Je disais même quand ils vont mieux, même quand ils sont. Est-ce qu'un misophone peut arriver à être complètement apaisé, tranquille?
Bah, c'est le but. Ouais.
Moi, je connais ce monsieur-là, mais…
Les personnes qui m'ont dit, au bout de 4 séances, on a annulé parce qu'on va bien, on ne parle plus de misophonie. C'est comme une personne qui a une douleur, elle va se plaindre de sa douleur tant que la douleur est là, et qu'après, il n'y a plus de douleur, donc c'est fini, elle n'a plus de symptômes, elle ne se plaint plus, il n'y a plus de problème. C'est pareil. On n'est pas, on va dire, malade tout le temps. Mais l'histoire, c'est la misophonie, c'est un petit peu comme les… Tant que le problème n'est pas réglé, il est là. Enfin, c'est une évidence, mais c'est comme ça. Mais c'est un peu comme les phobies. La personne, au début, elle fait une crise de panique dans un lieu parce qu'elle pense à quelque chose qui l'angoisse. Elle pense que c'est le lieu. Donc, elle va éviter le lieu, par exemple, dans un magasin. Elle va éviter ce magasin. Après, elle va éviter tous les magasins qui ressemblent à ce magasin. Après, elle va éviter les ponts. Après, elle va éviter le métro. Elle va éviter le tunnel. Mais à la base, ce n'était qu'une pensée. Pour la misophonie, c'est la même chose. Au début, c'est avec une personne, et puis en particulier. Et puis, petit à petit, c'est à la maison. Après, c'est avec plusieurs personnes. Après, c'est au restaurant. Après, c'est dans le travail. Après, c'est tout le monde. Et c'est là où, à un moment donné, la vie, la personne déprime parce que c'est devenu insupportable.
Ah oui, c'est terrible.
Et oui, mais à la base, il y a eu un événement. Oui. Mais parce que c'est aussi cognitif, c'est-à-dire que les personnes, elles se disent, elles ne disent pas, c'est telle personne, c'est mon père qui m'a touché, c'est ma mère qui a lu mon journal et qui en parle à tout le monde de c'est arrivé. Non. Elles n'ont même pas conscience de ça. C'est la mère, je ne peux plus supporter ma mère dès qu'elle ouvre la bouche. Donc, dès qu'elle ouvre la bouche, parce que la fille, elle a peur que sa mère continue à parler de son journal. Voilà, parce qu'un jour, elle a surpris ses parents en train de discuter avec des amis et la mère se moquait de ce qui était noté dans le journal de sa fille. Mais ça, c'est parti, c'est le passé, ça a été oublié et c'est les bruits de la mère, les bruits de bouche. Donc, quand on traite les émotions, tout ça, ça disparaît. Puis le souvenir, il peut revenir ou ne pas revenir. Quand ça, c'est des, je veux dire, par exemple, un bébé qui a été aspiré, comme tous les bébés, au moment de sa naissance, si la personne adulte, elle supporte plus ces petits bruits d'aspiration, elle va pas se souvenir que c'est parce que quand elle est née, on l'a aspirée, qu'on lui a fait mal et on l'a fait sans précaution ou que sa mère après elle n'a pas voulu la voir ou... Donc on n'est pas obligé de connaître la cause. Si on traite l'émotion, il n'y a plus besoin de connaître la cause. L'émotion a disparu, c'est déraciné.
Merci.
Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Oui, une petite question, oui. Olivier. Donc, j'aurais voulu savoir, est-ce que tu as remarqué quelquefois quelqu'un qui désactivait une difficulté vis-à-vis de la misophonie? Est-ce qu'éventuellement, il y avait d'autres choses qui étaient désactives en même temps, du genre, je ne sais pas, le vertige ou la peur des trous dans les murs ou je sais quoi.
Si c'est en lien, oui, mais on ne le saura pas obligatoirement. Alors, je ne vais pas parler d'EMRES parce que je n'ai pas le souvenir, là, ça ne me vient pas. Mais je sais que pour le MDR, par exemple, il y a des personnes qui sont venues pour des vertiges, des acouphènes, des troubles ORL et qui m'ont dit après, mon psoriasis a disparu. Et je ne savais même pas que la personne avait un psoriasis. Il y en a d'autres qui m'ont dit, mes troubles sexuels ont disparu. Tant mieux. Mais jamais la personne n'avait parlé de sexualité avant. Et eczéma aussi. Il y en a une qui m'a dit, j'ai plus d'eczéma là maintenant. Depuis qu'on a... Alors qu'en fait, on n'avait jamais traité le... Mais c'était en lien. Alors c'est là où je me dis, la psychosomatique, la vraie psychosomatique, elle est en lien avec des événements qu'on a vécu au moment de la vie embryologique, parce que on m'a pas parlé d'autre chose que c'est des problèmes d'oreille, jamais autre chose que l'eczéma, le psoriasis et les troubles sexuels. Et il se trouve que au niveau embryologique, alors j'ai plus les noms non plus, mais il y a trois lames. Et il y a une lame où il y a le cœur, la peau, le système nerveux.
Ah oui.
Donc je me suis dit que pour ces personnes, il y avait sûrement, il s'était passé quelque chose au moment du développement embryologique de cette lame-là. Trois lames. Ça, c'est passionnant. Hein. Après, c'est toujours pareil, on me dit prouvez ce que vous dites. Bon, moi, je dis, je n'ai pas à prouver. Je ramène ce que me disent les patients. Et je vois les. Il y a un consensus d'experts internationaux qui ont écrit un article de 40 pages sur la maladie de Ménière. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont reçu des Ménières? Moi, ce n'est pas du tout ce que me disent les patients. C'est parce qu'ils n'écoutent pas. Ils savent, donc c'est la différence hein, entre le médecin et le psychothérapeute, c'est que le médecin sait, alors que le psychothérapeute part du principe qu'il ne sait rien et il va interroger les personnes. Et c'est sûr, quand il y a 100 personnes qui racontent la même histoire, on peut se dire que c'est peut-être vrai ce qu'ils disent.
Oui, et puis on peut aussi se placer, le psychothérapeute va se mettre plutôt sur la cause, alors que le médecin va se mettre, ou le chercheur va se mettre sur les faits.
Ah oui, mais moi, quand je parle, je veux dire, j'ai fait des conférences hein, où j'ai expliqué, par exemple, que dans cette pathologie, ce que j'avais retrouvé, c'était principalement la colère. On m'a dit, j'ai dit la colère, hein, le modérateur, un grand patron parisien qui me dit, mais tout le monde sait que les vertiges donnent de l'anxiété. Alors, j'étais accompagnée du professeur Dubreuil qui a dit « mais ils n'ont rien compris ». J'ai voulu prendre le micro pour dire « c'est pas du tout ce que j'ai dit ». J'ai dit « je n'ai pas parlé d'anxiété, j'ai parlé de colère ». Et la colère, c'est la cause, alors que l'anxiété, c'est la conséquence. Il faut faire la différence entre cause et conséquence. Bon, on m'a arraché le micro des mains. Vous avez suffisamment parlé. Bon.
Ouais.
On ne peut pas avancer hein, quand c'est comme ça. C'est pour ça que j'écris des livres, parce que je me dis, face à ces personnes qui sont tellement sûres d'elles, ouais. J'ai été mais huée à des congrès. C'est horrible. Mais bon, on m'a dit, on ne peut pas ébranler votre intime conviction. Ben, je dis non, puisque moi, je ne fais que répéter ce que me disent les patients. Et quand certains sont opérés, alors qu'à la base, c'est parce qu'ils ont été agressés, ils ont vécu des choses difficiles. Je me dis, il faudrait peut-être mieux traiter leur pathologie de stress post-traumatique avant de les opérer.
Mmh. C'est comme ça. Je serais mauvaise langue en disant que c'est moins rentable de traiter le traumatisme initial par une méthode type MRS ou MDR.
Mais moi, j'ai mis que le fait de faire MRS, c'était à la fois économique et écologique. Donc, il n'y avait pas de produits qui partaient dans les rivières. J'ai mis là dans mon bouquin. Et j'ai dit aussi, on m'a dit, mais tu crois que tu le dis? Je dis, ben oui, je le mets, mes correcteurs, ils m'ont dit, tu crois? C'est que des chirurgiens m'ont dit, mais Anne-Marie, si tu traites les gens si vite, qu'est-ce qu'on va devenir, nous?
Exactement.
C'est le problème des psychothérapeutes, parce que sur le site la DAPES, un jour j'en ai parlé, et il y en a qui m'ont dit, mais nous, c'est notre gagne-pain. Si vous traitez les gens en 3-4 séances, qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je suis toujours partie du principe qu'à partir du moment où ça marchait, eh ben, on allait avoir de plus en plus de monde. Et moi, ça a été mon cas. Même si je reçois les personnes 4 séances, j'en ai plus chaque fois parce que les gens sont contents et vont dire… Et puis ceux qui ne sont pas contents, moi, je fais tout pour ne plus les recevoir. Parce que je me dis, ils vont faire. Moi, je vais me fatiguer et ils vont me faire une mauvaise publicité. Donc, je préfère recevoir les personnes pour lesquelles ça marche bien, qui vont en parler et qui seront contentes. Et comme ça, il y aura de plus en plus de personnes qui seront traitées. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est logique. Parce que ceux qui n'ont pas envie, qui ne sont pas motivés, qui n'ont pas. C'est écrit, hein, les échecs d'Emresse. Ils comprennent rien, ils veulent pas comprendre. ils n'ont rien à traiter, tout va bien. Bon, bah, à ce moment-là, on ne les reçoit pas. Ils ne vont pas se fatiguer. Non, mais c'est vrai. Enfin, je ne sais pas. Mais... Ouais. Moi, j'aime bien soigner les gens qui ont envie de guérir. Et comme en plus, il y a quand même des pratiques comme MRS et le MDR qui permettent de guérir vraiment, autant traiter les gens qui ont envie de guérir. Il y a des gens qui préfèrent faire 10 années. Moi, j'ai vu un psychanalyste, il avait 20 années de psychanalyse, il n'avait pas changé d'un poil. Il faisait travailler sur le corps pour ses problèmes de voix. Eh ben, il n'avait aucun mot pour nommer son corps. Je dis, c'est quand même 20 ans de psychanalyse. Je me dis, mais bon, ça me paraît invraisemblable. Et pourtant, c'est comme ça. Donc, les gens qui n'ont pas envie, parce qu'il y a des défenses, je respecte, mais ce n'est pas vers les praticiens MRS qu'ils doivent se tourner.
Ils vont voir, bah, tu sais bien qu'avec MRS, on ne va pas chercher le pourquoi. Sinon, 20 ans après, on est encore.
Ben oui.
On ne peut être que dans ici, maintenant, et dans la conscience de ce qui se passe dans le corps. Exactement. Sinon, c'est juste au secours.
Oui, oui. Mais dans la mesure où ça marche bien, c'est vrai que c'est mieux de traiter les personnes. Moi, je vois celles qui font les exercices, elles sont contentes, hein, qu'elles se rendent compte très vite que ça marche très bien. Et pour nous, c'est du renforcement positif de l'action. Ça nous donne envie de continuer dans ce sens-là.
Parfois, juste prise de conscience peut aider. Je me souviens d'une personne, enfin, j'étais encore en médecine de travail, et une personne qui vient avec un dossier de Dame de Quinck, enfin, suite à je ne sais plus quel aliment, et mon infirmière qui dit oh, j'espère que ça ne nous arrivera pas, voilà. Donc bon, et en l'interrogeant dans sa première consultation, on faisait un petit peu son historique, etc., je me suis rendu compte, là, je lui ai fait dire que c'était arrivé quand elle avait mangé ce produit là après un enterrement, et la deuxième fois où elle en a mangé, c'était aussi après un enterrement. Et rien que le fait d'avoir fait le lien, ben, ça ne s'est jamais reproduit, et je ne me souviens même plus de qui il s'agit parce que ça ne s'est jamais produit.
Ouais, ouais. Non, mais c'est génial de découvrir ça. Mm. Moi, je me souviens c'était un psychiatre du Santé Ombérard avec qui j'avais discuté un jour, et je racontais, parce que j'ai une patiente qui avait eu une sinusite chronique et ça ne passait pas, et elle avait une vitesse de sédimentation à 130 et énorme, et donc elle est allée à Paris, elle avait fait un bilan de maladie, parce qu'elle a peur d'avoir un cancer de myélome, un cancer de la moelle, etc. Et elle me dit, mais j'aimerais bien que vous me fassiez des lavages de sinus. Je dis, écoutez, d'accord, la méthode qui n'est pas douloureuse. Et puis, au bout de 5 séances, elle me dit, oh, j'aimerais encore un petit peu plus. Et ces personnes, je la connaissais, je me suis dit, il y a quelque chose. Alors, je dis, ben d'accord, je vous fais encore 5 séances de lavage. Elle revient et là, elle me parle de sa mère, qui avait un cancer. Elle lui avait dit, si tu guéris de ton cancer, je te garde à la maison. Et elle a gardé sa mère pendant 20 ans, qui était sortie du cancer, avec des problèmes de couple pas possible. Enfin bon. Et en discutant, elle me dit, avec ma mère, avec son cancer, elle avait une vitesse de sédimentation à 130. Je lui dis, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme votre mère. Et là, elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle se rendait malade. Et à partir du moment où elle a pris conscience de ça, moi, je lui dis, dans un mois, vous refaites faire une vitesse de sédimentation. Sa vitesse était descendue à 30. Deux mois après, je refais faire une vitesse de sédimentation. Et là, elle avait une vitesse de sédimentation qui était normale à 10. Donc, même dans la biologie, il y a des somatisations, enfin, biologiques. Et le psychiatre, il m'avait dit, mais publiez. Donc, c'est là où après, ça m'a donné l'envie d'écrire. Parce qu'il dit, moi, si je le dis, on ne me croira pas. Bon, après, il n'y a que des cas particuliers, hein, mais dire, le fait de... Et c'est vraiment cette idée qu'il y a un traumatisme de départ avec des stimuli qui viennent renforcer le problème. Donc, si on enlève l'effet émotionnel, il n'y a plus de stimuli qui vient renforcer. Et du coup, le symptôme, il disparaît. Il n'a plus lieu d'être. Parce que les personnes, elles trouvent leur solution d'elles-mêmes. Hein. Moi, j'adore, quand on a fini ces séances d'EMRES, d'entendre les personnes faire des conclusions très intéressantes sur leur vie. Et puis, elles se projettent dans l'avenir en disant qu'elles vont changer. Elles ont plus peur de changer. Moi, j'en ai une en 3 semaines. Elle a eu une séance. 3 semaines après, elle revient. Elle avait donné sa démission pour son travail parce qu'elle s'était rendue compte qu'il ne lui convenait pas. Elle en avait retrouvé un autre. Elle a changé sa relation, là, son conjoint, et elle a déménagé et retrouvé un autre appartement. En l'espace de 3 semaines, je dis, c'est fort quand même. Hein, et elle allait très bien. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça non plus. Hein. Bon, enfin, là, on s'éloigne de la misophonie. Elle, non, ce n'est pas la misophonie, c'était une maladie de Ménière. Voilà, bon, on va peut-être terminer comme ça.
Voilà, passionnant. Ouais. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est bien. Merci infiniment, Anne-Marie.
Et puis, si jamais vous recevez des personnes et que vous avez un petit souci, vous m'envoyez un message. Et puis, si je peux... vous aiguiller, je le ferai. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait quand même des questions. Quelle différence entre gêne ou bruit intolérance ? Bon, j'ai répondu.
On aura votre mail.
Oui, les références des livres. Bon, j'ai répondu hein, finalement à tout là. Voilà.
Est-ce que vous pouvez avoir votre adresse mail ?
Alors, l'adresse mail d'Anne-Marie est tout au début du chat, mais sinon, Anne-Marie est de toute façon sur le site de l'APEZ, mais je peux vous le redonner là.
Oui, sur le site, c'est bien de mettre mon email et puis les livres que j'ai cités, là.
Voilà, voilà de nouveau l'email d'Anne-Marie.
L'email, c'est Anne-Marie en un mot. .pifo@gmail.com.
Anne-Marie, c'est Olivier là. Oui. Est-ce que tu peux nous faire apparaître sur ta page?
Pardon?
Est-ce que tu peux faire un mail à l'APEZ pour que apparaisse sur ta page ce que tu veux, les liens, les blogs, etc., le nom du... de ton bouquin quand il paraîtra. Voilà. J'en profite à tout le monde pour le dire, d'ailleurs, de mettre à jour, de vérifier ce qu'il y a sur la page. C'est moi qui fais les mises à jour.
Voilà. Et puis, je peux mettre le site parce que les autres livres que j'ai écrits, j'en ai écrit 5 ou 6, ils sont en ligne, en auto-éditeur, en fait. C'est en auto-édition, c'est le site bookelis.com.
Oui, tu nous donneras
Donne-moi tout ça. Je le mettrai avec plaisir sur le site, c'est facile.
Ouais, ouais, d'accord. Merci. Ouais, ouais. Je vais te faire.
Et puis moi, je relayerai ton adresse mail si ça te convient avec l'enregistrement.
Voilà, d'accord.
Comme ça, les praticiens l'auront.
En fonction s'il me plaît, l'enregistrement, je le mettrai sur mon blog.
Ok. Bon, bah là, il y a eu un petit stop. Hein. Je ne sais pas comment tu vas le gérer, mais. Bien.
Voilà. Bon, bah, écoutez, merci pour votre attention, pour vos questions. Et puis, à une prochaine, si vous avez envie.